Nous allons reprendre l'étude du Saint-Esprit en sa mission et voir maintenant les autres effets de la communion. Nous avons vu les premiers effets de la communion qui sont étendus, importants, et l'on ne se rend pas toujours assez compte que c'est dans la communion que les choses que nous avons mentionnées peuvent se manifester. Par exemple, le cœur pur, le cœur dépourvu d'hypocrisie, de duplicité, le cœur qui juge, qui discerne sainement, qui reçoit la sagesse d'en haut, qui porte le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, tout cela ne peut se produire qu'en raison de la communion. Pour là, le motif bien simple, c'est que ça ne peut pas être produit par la chair, pas du tout. La chair ne peut absolument rien faire de ces choses, et c'est l'esprit de l'homme, avec un petit T, qui peut le faire quand il est lui-même visité, conduit, je dirais tenu par l'Esprit de Dieu avec un grand T. Donc la communion, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit du Père envoyé par le Fils, Esprit du Père, Esprit du Fils, et qui a établi sa demeure dans l'être intérieur du croyant. Et alors, la vie chrétienne développe ses effets. Nous allons voir ici d'autres effets, et particulièrement la connaissance de la vérité et la connaissance de Dieu. Deux connaissances, vous savez qu'il y a deux connaissances. Nous allons voir cela déjà dans les Colossiens, chapitre 1er. Verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà une première connaissance, la connaissance de la volonté de Dieu. Et cette connaissance de la volonté de Dieu n'est pas seulement la connaissance des Écritures, bien entendu, et même la connaissance bien éclairée par l'Esprit, mais la connaissance de la volonté de Dieu, c'est une connaissance de tous les instants, une connaissance mobile qui s'adapte aux circonstances, qui permet de savoir comment se comporter, comment se conduire devant telle ou telle circonstance qui viennent, qui surgissent devant soi. Notre marche va constamment au-devant de toutes sortes de circonstances que nous ne... Certaines, nous les attendons, mais d'autres, nous ne les attendons pas. Et il y a des circonstances qui sont voulues de l'ennemi, et d'autres circonstances qui sont voulues de Dieu. Alors, il faut savoir naturellement les distinguer les unes des autres, et puis il faut savoir comment agir, comment en somme se manifester. La vie chrétienne a ceci à faire, de se manifester au-devant des circonstances. Soit celles qui sont attendues, soit celles qui sont inattendues. Et il y en a beaucoup de celles-là, et qui proviennent les unes ou du diable, les autres de Dieu. Alors, première connaissance de la volonté de Dieu. Marcher toujours avec cette connaissance, comme Christ avait lui toujours la connaissance du Père, qui s'adaptait aux circonstances. Il savait devant une situation qui se présentait, il savait ce qu'il allait faire. Et ce qu'il allait faire, ça allait être la volonté du Père. Ce n'est pas toujours notre cas. Hein? Il faut que là, n'est-ce pas, nous soyons vraiment guidés par le Saint-Esprit. Et vous voyez que la prière est nécessaire pour obtenir cette connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà la seconde connaissance. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même sens. C'est voisin, mais enfin, ce n'est pas le même sens. La connaissance de Dieu, c'est l'intimité avec Christ et Dieu. C'est la communion. D'ailleurs, le mot connaissance ou connaître sont des mots qui, en somme, sont à réunir au mot communion et à certains autres, car ils englobent la même réalité. Alors, vous remarquez ici que, portant des fruits en toutes bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Ici, la connaissance de Dieu est un moyen, et le moyen universel. Donc, la communion, à la place de connaissance, disons, si vous voulez, communion, est le moyen de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et de grandir et de croître. Alors, nous allons voir maintenant la connaissance surtout de la volonté de Dieu, qui s'appelle aussi connaissance de la vérité. Alors, voyons d'abord Jean 14, 26, ou 25 même. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Mais j'aurais dû lire aussi le verset 17 du même chapitre, un peu au-dessus. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Une première remarque... L'esprit de vérité se trouve dans trois textes ici, c'est-à-dire dans trois paroles différentes du Seigneur Jésus, Jean 14, 17, Jean 15, 26 et Jean 16, 13. Nous verrons cela après. Mais trois fois, donc, le Seigneur emploie cette expression, l'esprit de vérité. Alors, il faudrait peut-être déjà dire ce que signifie cette expression, l'esprit de vérité. Eh bien, voici. En faisant sa demeure dans l'homme, l'esprit y manifeste d'abord, essentiellement, Dieu et Christ. Car avant tout, voyons le Saint-Esprit qui est Dieu comme une présence, n'est-ce pas? C'est d'abord ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir immédiatement les conséquences, les effets. Il faut voir d'abord le principal, c'est que le Saint-Esprit est une présence. Alors, il y manifeste Dieu et le Christ. Il est l'Esprit, comme je disais, du Père et du Fils. Et l'Esprit en l'homme va développer cette seconde connaissance dont j'ai parlé, la connaissance spirituelle de Dieu et d'un Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est. C'est-à-dire sans que cette connaissance puisse être entachée d'obscurité, d'ombre quelconque, la révélation intérieure de Dieu par le Saint-Esprit sera vraiment tout ce que l'on peut connaître maintenant de Dieu. Et ce sera évidemment une vérité, la vérité de Dieu. Alors il va développer cette connaissance dans la connaissance de Dieu, il y a donc l'intimité avec Dieu, la relation intime avec Dieu, et puis il y a une entrée, bien entendu, dans des vues sur Dieu, sur la personne de Dieu, sur les perfections de Dieu qui se développent. quand on est avec un ami, n'est-ce pas, eh bien, on commence par connaître cet ami, et on sent qu'on est lié d'amitié avec lui, c'est bien, mais plus on le fréquente, plus on connaît cet ami, et plus on voit, on parvient à comprendre cet ami, ses sentiments, notamment. Et là, le Saint-Esprit va donc faire entrer plus avant dans cette connaissance spirituelle de Dieu, dans la connaissance de ses perfections, et notamment sa puissance, sa sainteté, son amour, sa fidélité, c'est, je dirais, la manière que Dieu a de considérer les choses, de les voir. Et par le Saint-Esprit, donc, toute obscurité, toute erreur, tout mensonge, toute séparation, attention, toute séparation, c'est terrible pour un chrétien de vivre séparé de Dieu, puisqu'on est réconcilié pour vivre ensemble. Alors, toute séparation, toute, je dirais presque tout vestige de séparation, tout cela est aboli. Absolument aboli. Plus d'obscurité, d'erreur, de mensonge, de séparation. Rien ne doit subsister lorsque le Saint-Esprit est là. C'est bien l'Esprit de vérité qui vient là introduire la vérité. Et par vérité, il ne faut pas entendre nécessairement la totalité de la doctrine. Il ne s'agit pas de ça. Il établit une vérité. J'ai eu un jour une discussion avec un pasteur de l'Église réformée, pasteur protestant, qui, lui, ne voulait pas admettre que l'on puisse avoir la vérité. Alors, j'ai fini par lui dire, écoutez, monsieur le pasteur, c'est bien dommage que vous ne l'ayez pas. Mais moi, au risque de paraître très prétentieux, je vous dirais que le Saint-Esprit me donne la vérité. Mais cette vérité, lui ai-je dit, ça ne veut pas dire que j'ai la connaissance de toute la Bible, de tout ce qu'elle contient, de toute la doctrine. Vous en avez peut-être sur ce chapitre-là beaucoup plus que moi, mais je dis la connaissance de la vérité. Il y a une vérité qui est là sur Dieu et qui permet même de connaître la volonté de Dieu, se modelant à chacune des circonstances de la vie. Tout ce qui était faussé dans l'homme est redressé, est rendu vrai par la présence du Saint-Esprit. Il ne doit plus y avoir, quand le Saint-Esprit est là, il ne peut plus y avoir rien de faussé. Nous connaissons peut-être peu, dans le début de la vie chrétienne, nous connaissons peu de choses encore. Mais ce que nous connaissons est entièrement placé dans la lumière de la vérité. La vérité est là. Elle est, si vous voulez, elle n'est pas étendue dans tout ce qu'elle peut comporter, mais elle est là, il y a la vérité fondamentale est là. Et le cœur de l'homme, lié à Dieu par le Saint-Esprit, est capable de voir la vérité au devant de lui dans sa marche. Et nous allons voir donc ce que signifie maintenant dans Jean 14, 26, « Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela, le Saint-Esprit l'a d'abord fait pour les apôtres. Il est évident que les apôtres qui posaient avec le Seigneur Jésus le fondement de la foi, bah, il fallait que les apôtres, qui n'avaient pas pris des notes, et puis enfin c'était pas le moyen que Dieu voulait bien sûr, mais il fallait que ces apôtres puissent se souvenir de tous les enseignements divers du Seigneur Jésus pendant tout le temps où ils étaient avec lui. Donc là, le Saint-Esprit à enseigner toutes choses, à rappeler toutes choses aux apôtres. Et nous en avons la preuve de cette action sur eux, dans, par exemple, deux textes, Jean 2, 22, C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Dieu avait dite. Ils se souvinrent. C'est pas qu'ils ont eu, à ce moment-là, une lumière dans leur mémoire, c'est que le Saint-Esprit leur a rappelé cela. Et puis, chapitre 12 et verset 16, « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » Quand le Seigneur a été glorifié, autrement dit, à Pentecôte, le Saint-Esprit étant là, eh bien, alors ils se souvinrent de ce que Jésus leur avait dit. Et ils s'en souviennent de telle manière qu'ils savent faire la relation avec l'Écriture et s'apercevoir que, en effet, là, dans l'action de Jésus, c'est toute l'Écriture annoncée qui s'est accomplie. Le Saint-Esprit remet en mémoire les enseignements de la parole de Christ. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, parce que le Saint-Esprit fait toujours cela, il le fait pour nous maintenant, il l'a fait pour les apôtres d'abord, mais il le fait pour nous aussi. Et s'il nous remet en mémoire des choses, il faut que nous les ayons déjà au moins entendues ou lues. Il ne peut pas nous remettre en mémoire ce que nous avons négligé de lire ou d'entendre. Donc vous voyez déjà que la méditation de la Bible est loin d'être exclue. Au contraire, et ce que fait le Saint-Esprit, c'est quelque chose, lui, vous voyez, de pratique, d'essentiellement pratique. On aurait tort de s'imaginer que le Saint-Esprit va être le grand docteur qui va nous faire asseoir dans un amphithéâtre et puis, d'une façon docte, nous rappeler les principes, les choses dites par le Seigneur. C'est pas ça du tout. Le Saint-Esprit est beaucoup plus simple que les hommes, bien qu'étant tellement plus grand. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est de rappeler les choses que nous avons entendues ou lues dans la Bible, que nous avons eu connaissance, mais que, bien sûr, nous ne pouvons pas nous souvenir à tout moment. Eh bien, justement, au moment où l'on en a besoin, le Saint-Esprit va nous rappeler la chose. Voilà, le Saint-Esprit est là. Je pourrais dire qu'il suit notre marche. De l'intérieur, il est à pied d'œuvre, il suit notre marche. Il voit nos pensées, il les nourrit, et alors, devant une circonstance, par exemple, la prière, un besoin de prière, une certaine prière, il va rappeler ce qui est nécessaire, ce qui doit charpenter cette prière. Et puis, devant un témoignage, le témoignage de quelqu'un, il va nous rappeler la pensée, l'enseignement, le verset. J'aime pas trop dire le verset, je dis le verset, c'est pour mieux vous faire comprendre. Mais il va nous rappeler essentiellement la pensée d'un verset. Nous le citerons peut-être non pas textuellement, pas toujours absolument nécessaire de le citer textuellement. Le tout, c'est d'en délivrer l'idée. Si on peut, évidemment c'est plus facile de citer textuellement si on l'a appris. Il nous rappellera cela donc pour le besoin du témoignage ou pour les nécessités de notre vie. Et cela vous en avez fait l'expérience, je n'en doute pas. Quand vous êtes dans telle ou telle situation, plus ou moins scabreuse, difficile en tout cas, alors là le Saint-Esprit va dire à votre cœur, eh, « Ne te rappelles-tu pas que le Seigneur a dit ça? Ne sais-tu pas que dans l'épître de Paul, ou dans l'épître de Jacques, ou dans l'épître de Pierre, il y a ceci, ou dans l'Apocalypse, il y a ceci, il y a cela ?» Voyez-vous, il va illuminer un passage, une pensée de l'Écriture, car il ne prend que ce qui est à Christ et il nous l'annonce, c'est pas, voyez ce qu'il fait. Il n'innove pas, lui, le Saint-Esprit. Il nous annonce ce qui est de Christ. Il le ferait bien plus, cela, d'intervenir au moment, comme on dit, psychologique, c'est-à-dire au moment où, précisément, nous avons besoin d'un matériau de vérité, un matériau de l'Écriture. Alors, il le ferait bien plus si nous nous attendions davantage à lui. Mais comme nous faisons appel, en général, à notre intelligence d'homme ou de femme, et nous faisons appel à cette intelligence, nous cherchons à construire une chose, une pensée, préparer une réponse, nous essayons de la modeler nous-mêmes, alors le Saint-Esprit est là, et puis regarde avec tristesse, parce que nous l'attristons, le Saint-Esprit, il regarde avec tristesse nos pauvres errements. Ah, le voilà encore, parti avec son intelligence, avec son raisonnement à lui, il prétend répondre. Il ne m'a pas laissé lui suggérer la bonne réponse, le bon verset, le bon passage de l'Écriture. Voyez-vous ? Alors, nous l'empêchons, mais si nous ne l'empêchions pas, si nous nous attendions contraire à lui, il agirait bien plus. Et si nous écoutions mieux le Saint-Esprit en nous attendant à lui, sans étouffer sa voix intérieure par l'agitation de nos pensées, ça aussi, n'est-ce pas ? Il y a une tempête en nous, dans notre cœur, une tempête. Il y a un événement, il s'est produit. Alors, cette tempête est plus ou moins violente selon les tempéraments, mais il y en a chez qui les tempêtes se soulèvent à tout propos, pour la moindre chose. Alors, une tempête à l'intérieur du cœur, une tempête dans les pensées. Et alors, le Saint-Esprit, au milieu de ce vent qui souffle inconsidérément de tous les côtés, lui, il a un souffle léger. Alors, le souffle léger du Saint-Esprit, il est dissipé dans tout ça, n'est-ce pas ? Il est dissipé. Nous ne le laissons pas parler. Notre agitation vient quelquefois de nos craintes, de nos peurs et de nos dénégations personnelles, quelquefois aussi de notre incrédulité. Parce qu'il nous reste encore quelquefois des doses d'incrédulité, ou des apparitions d'incrédulité qui gênent le Saint-Esprit, sans quoi il nous guiderait constamment par la parole de Christ. Et s'il nous guidait constamment, si nous faisions ça, chers amis, allez-vous l'apprendre, cela ? Ça s'apprend, vous savez, à maîtriser sa pensée, son intelligence, à les maîtriser. Dans un livre que vous avez peut-être lu, d'Andrew Murray, il y a justement un passage qui est très très bien, où l'auteur conseille de laisser absolument, impérativement, par la foi, son raisonnement, sa propre intelligence à l'arrêt, pour laisser le Saint-Esprit parler, suggérer, conduire les choses. Nous sommes dans l'action surnaturelle et notre intelligence humaine ne peut que fausser cette action. Alors, si nous le laissions faire, si nous le laissions à tout instant nous montrer quelle est la parole à dire ou quelle est l'attitude à avoir, eh bien, il en résulterait ce que dit le verset suivant, et ce n'est pas par hasard qu'il y ait cette suite. Le verset 27, nous sommes dans le chapitre 14 de Jean, je le rappelle, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, n'est-ce pas, un cœur qui ne se trouble point, qui ne s'alarme point et qui laisse agir le Saint-Esprit, la paix de Christ se présente. Nous laisserions agir le Saint-Esprit, nous goûterions la paix de Christ. Non seulement le Saint-Esprit remet en mémoire les enseignements du Christ, mais il leur donne même une clarté, un appui, une certitude que nous ne trouverions pas nous-mêmes dans la simple étude des Écritures. Il nous donne cette certitude et cette clarté nécessaire. Et puis, faites encore une chose. Et tout cela est contenu dans le verset 26. Il fait encore une chose, il féconde. Il féconde, car il est la vie, le Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Père et du Fils, donc il est la vie. Il féconde la parole écrite pour en faire une semence de vie. Alors, principalement dans le baptême du Saint-Esprit, avec son utilisation qu'est le témoignage, cela, nous le verrons plus particulièrement. Mais disons-le toujours, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui est en communion, vraiment, et le Saint-Esprit féconde la parole obtenue des Écritures. Au chapitre 16 de Jean, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Être enseigné de Dieu est un privilège glorieux accordé à chaque croyant dans la communion. Cela, évidemment, ne rend pas superflu l'enseignement par voie de ministère, l'enseignement délivré dans l'Église par ceux qui en sont chargés. Car alors, si c'était ça, s'il fallait comprendre ça, et surtout dans la première épître de Jean, au chapitre 2, alors là j'aurais pu citer ce texte, oui, chapitre 2, versets 20 à 27, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ et celui qui est l'Antichrist? Celui-là est l'Antichrist et qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui, donc demeurez dans la communion, et vous serez enseignés par le dedans. Mais, il s'agit ici de faire obstacle et de fermer toute voie d'enseignement qui est étrangère à celle de l'esprit, étrangère à celle que l'on peut délivrer par voie de ministère dans l'Église, ou celle que l'on peut obtenir par l'étude des Écritures sous l'onction du Saint-Esprit. Il ne faut pas que des gens prétendent de l'extérieur venir vous enseigner. C'est pourtant ce qu'on voit maintenant, des gens venus de très loin, quelquefois, viennent vous enseigner, et cela ne peut pas être bon. Cela amène la confusion, nécessairement la confusion. Et aujourd'hui, la prolifération des ouvrages, des livres, on l'a déjà vu à des périodes antérieures, mais aujourd'hui cela s'amplifie. Un tas de livres, la littérature évangélique va bientôt être quelque chose d'inabordable. Eh bien, tout cela ne parvient qu'à une chose, créer la confusion. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Il y a trop de livres. De toute manière, moi, je les prends en général pour savoir ce qu'ils contiennent, et je m'aperçois que les choses sont présentées d'une manière, d'une autre, et puis on finit par ne plus savoir où on en est. Ça crée la confusion. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais je disais que cela ne rend pas superflu l'enseignement dans l'Église. Car alors, si c'était cela, eh bien, il aurait été inutile d'écrire le Nouveau Testament, et notamment les Épîtres, et qui sont là comme parole de Dieu, et qui enseignent des gens, et qui ont existé, des églises qui ont existé, et tout cela, c'est pour nous aujourd'hui. Il n'aurait pas été nécessaire d'écrire le Nouveau Testament. D'autre part, il n'aurait pas été nécessaire non plus d'instituer un ministère dans l'Église, ministère d'enseignement, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Tout cela s'est dit, il est même dit que dans l'Église, Dieu a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, et par conséquent, l'enseignement dans l'Église est une chose, est une fonction à remplir. Donc, ça ne veut pas dire que, du fait que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, qu'on n'a plus besoin d'enseignement. L'homme, d'ailleurs, qui reçoit le mieux l'enseignement du Saint-Esprit en lui, est cet homme le plus apte à recevoir aussi ce qui est enseigné dans l'Église à partir de l'Ancien Testament. Et j'en fais souvent la remarque, ça je l'ai constaté des quantités de fois dans des églises, quels sont ceux qui tirent le meilleur parti de l'enseignement qu'on peut leur donner, ceux qui méditent la Bible. Si j'ai affaire, par exemple, à des gens qui ne méditent pas la Bible, ou qui n'ont pas d'enseignement, eh bien, il m'est très difficile de les enseigner. Ou alors, ils ne me comprennent pas. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Il n'y a pas de réceptivité chez eux. Voyez-vous, par conséquent, n'est-ce pas, l'enseignement reçu du Saint-Esprit, qui est un enseignement continuel, ne se substitue pas à l'enseignement de l'Église. Les deux choses vont de pair. D'ailleurs, nous sommes et nous devons rester dépendants de l'Écriture sainte. Cela, le Seigneur l'a voulu. La parole écrite contient tout ce que le Christ a dit lui-même, ou qu'il a dit par ses apôtres, et elle est donc l'instrument nécessaire qui utilise le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et l'annonce. Voyons deux textes, Éphésiens 6:17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Voyez ? Prenez donc l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu pour lutter, pour vous conduire, pour vous comporter d'une façon satisfaisante. Un autre texte, Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes. La lecture des psaumes est excellente entre chrétiens, c'est ça surtout qu'on devrait utiliser, et non pas se jouer avec la doctrine, c'est très dangereux. C'est chez les psaumes qu'il faut essentiellement utiliser. C'est pourquoi on a fait souvent, on a fait des éditions du Nouveau Testament suivies des psaumes. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et puis, comme je viens de vous le dire, l'enseignement du Saint-Esprit est continuel, c'est pas à pas, et c'est au rythme de notre marche et de notre assimilation. L'assimilation n'est pas la même chez tous. C'est à ce rythme-là que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il annoncera même, nous est-il dit, les choses à venir. Il annoncera les choses à venir, au verset 13 du chapitre 16 de Jean. En éclairant le cœur par un rapprochement des Écritures et des événements. Lorsque nous verrons les événements, nous serons dans la position que Christ conseillait à ses disciples et qu'il nous conseille de savoir discerner les signes des temps. discerner les signes des temps. Alors on voit les événements, on comprend leur tournure, parce qu'on les rapproche des Écritures. Et les Écritures elles-mêmes livrent alors plus largement, d'une façon plus nette encore, tout ce qu'elles ont prophétisé, qu'elles contiennent comme prophétie sur l'avenir. Lorsque le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, alors il fait aussi une chose très nécessaire, il opère une cohésion entre les divers enseignements et les notions éparses que nous avons recueillies. Nous entendons un message par-ci, un message par-là, et puis nous touchons en somme un peu à tout. Nous-mêmes, en méditant la Bible, nous touchons aussi un peu à tout. Et alors, toutes ces choses-là sont en désordre et resteraient en désordre dans notre pensée si le Saint-Esprit n'en faisait une synthèse, une cohésion. Une cohésion. Il en fait un tout, et il établit de tout ça l'harmonie de la vérité. Maintenant, le Saint-Esprit, que fait-il encore? Eh bien, le Saint-Esprit révèle. Il a une action de révélation intérieure. Intérieure. Ne parlons pas de la Bible qu'on peut appeler la révélation avec un grand R. Elle est une révélation de Dieu. Et le monde ne veut pas la reconnaître comme telle, voyez-vous. Que dire à quelqu'un, monsieur très cultivé, et qui n'est pas croyant, lui dire que la Bible est la révélation de Dieu, vous allez le faire se hérisser. Il n'est pas content. Il y a deux choses qu'il n'accepte pas, c'est qu'on lui dise que Dieu est une personne, un Dieu personnel, il n'en veut pas. Il veut bien une espèce d'influence, une puissance peut-être inconnue. Et puis lui dire que la Bible est une révélation de Dieu, ça non plus, il n'en veut pas. Et donc le monde rejette essentiellement ces deux choses, la personne, la personnalité de Dieu et la révélation venue de Dieu. Eh bien, il y a une révélation intérieure. Nous l'avons dans 1 Corinthiens 2, c'est là le passage le plus important. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou l'homme psychique, l'homme naturel en somme, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est un très beau passage, passage merveilleux. Il y a donc une révélation des choses profondes de Dieu, des choses profondes qui sont cachées aux hommes incrédules. Aux hommes incrédules et qui n'aiment pas Dieu, car elles sont pour ces hommes une folie. Dieu, cela Jésus l'a déclaré, ne donne jamais ses perles aux pourceaux. Et ça, vous savez, c'est impératif et Dieu y tient. J'en sais quelque chose parce qu'un jour, j'allais exposer des choses de l'évangile de Jean Et dans l'évangile de Jean, il y a des choses magnifiques devant un certain auditoire. Et puis, il y a eu une sœur de l'église qui est venue tout de suite me voir. Elle était un peu troublée et elle me dit, j'ai une prophétie, est-ce que je peux la donner? Je t'ai donné, j'ai dit, ah oui, une prophétie, donnez-la. Nous étions en prière pour préparer cet enseignement. Alors, elle me dit, oui, mais c'est une prophétie très dure. Ah, ben j'ai dit, écoutez, si vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous guide, moi je ne veux pas vous empêcher de donner une prophétie, c'est à vous de savoir, c'est à vous de voir, mais pas à moi. Moi, après, vous direz que je vous ai empêché de prophétiser, je ne veux pas du tout. Si vous avez une prophétie, que vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit, qu'elle soit dure ou pas dure, dites-la. Et ce jour-là, elle a dit, en effet, enfin, je ne sais pas comment... dans le moment où elle a prophétisé, je ne me rappelle plus, mais je sais toujours qu'elle a cité cela, « Ne donne pas tes perles aux pourceaux ». Et il y avait, nous l'avons compris, vu après, constaté après, il y avait deux ou trois personnes dans l'auditoire qui étaient loin d'être dignes de participer à cet enseignement, et le Seigneur n'a pas voulu. Alors quand j'ai vu ça, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule, je me suis dit, ne donne pas tes perles aux pourceaux, ça c'est pour moi, alors il faut par conséquent ne pas dire ce que j'avais préparé sur l'intimité de Christ. En effet, c'était des perles, et je ne les ai pas dites, mais nous avons vu après qu'il y avait des personnes, en effet, tout à fait incapables et indignes même de participer à cela. Alors, vous savez, je le sais, donc je l'ai appris, voyez-vous, par l'expérience, que le Seigneur ne veut pas donner les perles aux pourceaux, c'est-à-dire à ceux qui écoutent avec un esprit méchant, un esprit de contestation, qui voudrait en tirer du mal, comme on a fait de la parole du Seigneur, eh bien, là... le Seigneur se refuse. Alors à ceux-là, on leur parle par parabole, afin que, en écoutant, ils n'entendent pas, mais que tout de même, il y ait quelque chose qui les juge. Le Saint-Esprit donnera donc à l'homme qui aime Dieu la capacité du discernement spirituel, et il ouvrira son esprit, comme Jésus l'a fait aux disciples d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs. Et nous avons dans ce très beau psaume 119, un verset, le verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Le Saint-Esprit est l'auteur, lui, de la Bible, de la révélation de Dieu. Il est l'auteur et il est en même temps le grand interprète. L'étude attentive de l'Écriture ne produira le fruit intérieur de la croissance. La croissance ne produira ce fruit que si cette étude est conjuguée avec une révélation intérieure, qu'on peut appeler la révélation subjective, si vous voulez, mais ça vous avancera peut-être pas beaucoup, subjective, alors que en lisant la Bible, en l'étudiant, nous avons la révélation objective, si vous voulez. Mais enfin, disons qu'il faut que l'étude de l'Écriture soit alliée, conjuguée avec une révélation intérieure. L'intelligence naturelle, cette faculté d'intelligence qu'ont les hommes, sera, elle ne sera pas naturellement absolument délaissée, elle sera mobilisée. Elle sera mobilisée pour contribuer à l'étude. Mais ce n'est pas elle qui assimilera. Elle assimile les connaissances humaines, mais elle n'assimilera pas ça. Elle n'est pas faite pour assimiler ça. Ce n'est pas elle qui va assimiler. L'intelligence est nécessaire. Faut pas dire, je veux absolument être bête, être dépourvu d'intelligence pour étudier les Écritures. C'est ridicule. Et il me faut mon intelligence, je vais m'en servir Mais comme je me sers d'un crayon, comme je me sers de mes mains, comme je me sers de ma voix, pas. Mais ce que j'apprends, c'est pas pour ma voix, c'est pas pour ma bouche, c'est pas pour mon crayon, c'est pour mon cœur. N'est-ce pas? C'est lui qui va assimiler. Il va assimiler. Et il va conserver. C'est l'être intérieur qui assimilera et conservera. Par l'effet de la révélation dont il est parlé là. Voyez, pour comprendre que, en somme, on ne peut pas étudier la Bible par la seule intelligence humaine, avec même une somme de connaissances extraordinaires, parce que vous avez des théologiens, et ce sont des gens, d'un côté, d'un point de vue remarquable, ils ont fait de très hautes études. Il y en a qui connaissent l'hébreu, qui connaissent le grec, très bien. Et nous avons des traducteurs encore maintenant. Il y a des traducteurs de la Bible, des gens qualifiés. Et je vous assure que les études pour y arriver sont trapues, n'est-ce pas? Eh bien, dire que ces théologiens-là sont plus capables que d'autres de connaître le contenu de la révélation, non. Ils connaîtront dans la mesure où simplement, comme tout le monde, comme le pauvre chrétien ignare, mettons, n'est-ce pas, ils auront la foi, dans la mesure où ils auront la foi et l'amour de Dieu. Mais sans quoi, ils vont faire des dégâts alors, qui va être à la mesure de tout leur orgueil, de toutes leurs prétentions et surtout de cette culture dont ils sont si fiers. Et cela, chers amis, nous allons l'illustrer, si vous voulez, par quelques remarques très simples. Imaginez que l'on dise, on voit quelqu'un qui sait lire la musique. Avoir le talent de jouer, n'est-ce pas, c'est différent que d'avoir la connaissance de la musique théorique. Il y a des gens il y a une science aujourd'hui, la musicologie. Il y a des gens qui sont très forts en musicologie et qui sont très nuls en musique d'exécution. Les gitans. Un jour, j'étais sur une estrade entouré de gitans. On chantait des cantiques. Alors, il y en avait un qui jouait du violon, là, et très bien. Alors, moi, je le voyais sans musique. On indique un cantique. Alors, je lui dis, vous le connaissez, ce cantique? Il me dit, non. Bon, alors, moi, je lui mets ça devant le nez. Bon, il me dit, vous savez, c'est pas lire. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas lire ça. Bon. Ah, ben, j'ai dit, alors, comment vous allez faire pour jouer? Oh, ah, bon, importance. Qui commence à chanter? Alors, tout le monde a commencé à chanter, puis lui, il ne s'était pas passé deux minutes qu'il accompagnait le cantique. Ah, bon, alors, vous voyez que c'est différent d'être fort en musicologie et de savoir jouer d'un instrument avec art. Prenons un autre exemple, si vous voulez. Quelqu'un qui connaît très bien la physique, par exemple, ou qui connaît très bien alors les couleurs, on pourrait se dire, ah ben celui-là, tiens, on va lui donner une toile, et puis il va nous faire un très beau tableau, hein. Mais il n'a jamais appris à peindre, il n'a pas même le talent qu'il faut pour cela, le don qu'il faut pour peindre. Ce n'est pas parce qu'il connaît les couleurs qu'il va faire un beau tableau, n'est-ce pas? Il va peut-être barbouiller quelque chose, c'est tout ce qu'il va faire. Bien, eh bien, de même, ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les langues anciennes très bien, l'hébreu, le grec, et connaît un tas de choses, a une grande culture, et qu'il va savoir expliquer la Bible et enseigner la vérité à partir de la Bible, c'est deux choses absolument différentes. La haute critique théologique a même causé d'énormes destructions que nous avons aujourd'hui à déplorer et qui sont une marque dans ce temps de la fin. Pour grandir, les membres de l'Église ont donc besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Utilisation faite de la Bible et de l'enseignement oral dans l'Église. La sagesse du monde, ou la sagesse humaine, c'est-à-dire la sagesse de l'homme naturel, est incapable de pénétrer les enseignements de la parole de Christ. Incapable. C'est ce que nous a dit notre texte. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Il faut en juger spirituellement, avec par le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il peut pas. Il ne peut pas. Et le Seigneur Jésus, au cours de sa présence sur la terre, a montré aux Juifs qu'il ne comprenait ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et pourtant, vous savez, il connaissait presque mot à mot l'Ancien Testament, ils étaient très forts, il y avait des scribes qui étaient capables de vous citer de longs passages de l'Ancien Testament. Mais Christ a dit ceci, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez rien. Et il l'a montré en d'autres textes aussi, qu'il ne comprenait absolument rien. Et pourtant, ils savaient, ils étaient savants, ils avaient leur théologien. Mais ils ne comprenaient rien. La compréhension profonde des Écritures nécessite un esprit libéré, libéré de tout orgueil, naturellement, et de toute prétention à savoir, libéré aussi de cette contrainte qu'exerce l'intelligence humaine, surtout quand elle est cultivée. Ah, ça, chez les gens cultivés, on a le plus grand mal. Il faut vraiment pour ces gens-là un effort, il faut qu'ils arrivent vraiment un effort de foi, ils arrivent à s'humilier pour obtenir la simplicité nécessaire à comprendre les Écritures. Sans ça, ils vont toujours la comprendre avec un vestige d'intelligence, de culture. Cette culture va toujours être là, va vouloir contribuer, et il faut ce tout. Mais je le remarque constamment. Nous avons même contact avec des gens qui sont chrétiens évangéliques, mais qui ont fait de hautes études et qui n'ont pas crucifié tout cela suffisamment. Eh bien, ces gens-là, il n'y a rien à faire pour leur faire entrevoir vraiment les choses sous le véritable jour qui est celui que découvre la foi. Ah, il n'y a rien à faire. Toujours, il y aura une manipulation intellectuelle de l'Écriture. Et ça, c'est terrible. Et que de mal on a avec ces gens-là. Et alors là, le Seigneur Jésus nous a parlé à ce sujet-là, dans le chapitre 11 de Matthieu. Et verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Les voilà, nos intellectuels. Les voilà. « Tu leur as caché ces choses. Et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Qu'est-ce qu'on pouvait mettre à l'opposé des intellectuels? Des enfants qui ne savent rien. Hein? Des enfants qui sont tout simples, qui ouvrent la bouche. Ah, voilà, et qui disent, c'est vrai papa, c'est vrai maman, des enfants, des petits-enfants. Eh bien, les chrétiens doivent dans leur, non pas être trop, si vous voulez, parés de candeur, mais ils doivent avoir une simplicité qui soit à l'égal de celle des petits-enfants, et alors ils reçoivent vraiment la révélation. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Eh bien, tous ces intellectuels, ils ne connaissent ni le Fils ni le Père. Et ils ont beau à parler, ils ont beau parler de la Bible, ils ne connaissent personne. Ils ne peuvent pas connaître, parce qu'ils ont en eux un obstacle. Et pour terminer, nous pourrons lire un texte dans Philippiens. Philippiens chapitre 3 et verset 4. Alors nous allons voir l'expérience de l'apôtre Paul là. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, en l'homme naturel. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et c'est là que l'intellectuel doit arriver, n'est-ce pas ? Regarder ça comme une perte. C'est pas qu'il va être oublié ce qu'il a appris et qui pourra lui servir dans la société, n'est-ce pas ? Mais, et pour ce qui est de sa foi et de sa propre croissance, il va regarder cela comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, et même, dans le texte original, c'est de l'ordure, je les regarde comme de l'ordure, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, vraiment, connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà, n'est-ce pas, le programme que Paul s'est donné, et c'est le programme que Dieu nous donne, de chercher uniquement la justice qui s'obtient par la foi, cette justice dont nous sommes habillés, et d'abandonner tout savoir prétendant, enfin un savoir qui est utile dans la société, je vous dis, c'est une chose, bon, gardons-le pour la société, mais en ce qui concerne la connaissance de Dieu, la connaissance de sa volonté, eh bien, abandonner tout savoir, regarder ça comme gênant, comme quelque chose qui est une entrave, afin vraiment d'entrer dans, d'avoir la justice qui s'obtient par la foi. Et quand nous avons, nous gardons la prétention d'interpréter la Bible avec tout notre savoir ou toute notre intelligence exercée, eh bien, que faisons-nous ? Nous nous habillons nous-mêmes d'une propre justice, tout simplement. Nous revenons à la situation où nous ne quittons pas la situation de l'homme qui se revêt lui-même de sa propre justice. Alors, tout cela, il faut l'abandonner pour être revêtu de la justice de Christ et connaître Christ, entrer dans cette connaissance. C'est ça qui importe. Il n'y a rien d'autre que cela qui importe, et pour ça, il nous faut la foi et il nous faut l'amour.